Penser est écrire sans accessoire. Donc, si on pense, on est en état d'écriture. Voilà, on n'est pas obligé de tracer sur du papier.
Alors, pensée et écriture, parlons un peu de l'influence de la philosophie à l'intérieur de votre littérature. Vous avez cité au cours de cette semaine le nom de Heidegger à plusieurs reprises. Vous citez aussi beaucoup Parménide, c'est en relation avec Heidegger. Vous citez aussi dans vos livres d'entretien et dans les livres ayant trait à votre propre écriture, je ne parle pas de l'écriture romanesque, mais des livres sur l'écriture, vous citez beaucoup la phénoménologie.
Absolument. Ça a été pour moi décisif, très jeune, de lire Husserl. Les recherches logiques, la logique m'intéressait beaucoup. Les recherches logiques et les méditations cartésiennes, etc., tout ça m'attirait profondément. Qu'est-ce qui est vrai, comment la vérité habite à l'intérieur de l'homme, pour parler comme Husserl à la fin des méditations cartésiennes, en citant saint Augustin, si vous voulez. Bon. Oui, mais regardez Heidegger, le maudit de la pensée. Bon, on ne va pas aborder ça. Voyez son livre sur Parménide. Qu'est-ce que c'est que le Parménide? Ça tient en 7 ou 8 pages. Et il y a des commentaires depuis très longtemps. Voilà. Alors j'avais employé sa formule de Parménide dans un film que j'ai réalisé sur Rodin, sur le penseur de Rodin. J'achève ça comme ça, l'être et le non-être n'est pas. Ce qui m'avait amusé à l'époque, c'est que Françoise Giroud, rendant compte de ce film admirable d'ailleurs, je peux me juger moi-même, dit voilà, on entend des choses comme l'être...
Vous êtes toujours content de vous-même.
Hein? Non, pas content. Amoureux, admirateur, fanatique. Content, non. Content, c'est pas assez. Par rapport à la façon dont les autres veulent vous censurer et veulent vous faire mourir, il faut être fanatique pour tenir le coup. Donc, elle dit, il y a des choses de ce genre, l'être et le non-être n'est pas. Bon, des banalités de ce genre, des banalités qu'on commande depuis des siècles. Donc, le Parménide d'Heidegger est un grand chef-d'œuvre. Il est paru il n'y a pas si longtemps en français. Et c'est un poème qui fait 8 pages, un poème de pensée, justement, qu'on a tort d'appeler un poème didactique, c'est un poème de pensée. Qu'est-ce que c'est? C'est 2500 ans hein, pour nous, donc ça n'a pas une ride comme expérience. Et donc c'est l'histoire d'un mortel qui s'échappe des chemins battus et qui galope, mû par son désir profond, emmené par des cavales avec des jeunes filles qui lui montrent la voie, les filles du soleil, que c'est beau. Et il arrive où? À une porte qui s'ouvre. Et il a affaire à la déesse vérité. Pas la déesse de la vérité, la déesse vérité elle-même, à l'Étéia. Donc c'est un poème absolument qui lui explique un peu, pas ce qu'on rumine là, les mortels qui tournent en rond avec leurs opinions, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que le fond des choses. Donc vous voyez, je dis ça pourquoi? Parce que les dieux et les déesses grecques m'intéressent au plus haut point. Je trouve que c'est malheureux qu'on les ait totalement oubliés, au point qu'on les cite en latin. On dit Jupiter, mais on ne doit pas dire Jupiter, il faut dire Zeus, parce que Zeus, j'aime autant vous dire que l'éclair est plus frappant. On ne doit pas dire Minerve, mais on doit dire Athéna. L'Athéna, c'est la déesse qui protège Ulysse, qui porte mon pseudonyme. Dans toutes ces histoires de l'Odyssée, vous avez... à peine j'ai su le livre, 12, 13, 14 ans. Oh, l'Odyssée, mais remettez-moi ça, mais racontez-moi l'Odyssée. Il y a la Bible aussi, mais enfin, c'est pas le même jour. Enfin,
je pense que la Bible doit être sur votre table de chevet, non?
Ah, bien sûr, oui. Mais il y en avait chez moi, vous savez,
Peut-être pas les mêmes.
C'était la grande Bible du 18e de Don Calmé, où il y avait des illustrations magnifiques. Voilà, l'errance du peuple hébreu dans le désert, tout ça me parlait beaucoup. Oui, bien sûr, j'écoutais très attentivement. La Bible que j'ai lue, je suis un des rares écrivains français à connaître très, très, très bien la Bible. On peut rester là aussi 3 heures là-dessus, si vous voulez. La Bible, les évangiles, les psaumes, les prophètes, voilà, tout ça. Voilà.
Et oui, que lisiez-vous quand il était petit à votre fils David? Plutôt la Bible ou plutôt Ulysse?
Les deux. C'est comme ça qu'il faut faire. Les deux, puisque de toute façon, le catholicisme résout ça, puisque catholique, ça veut dire universel. Donc, c'est parfait. On prend ça. Tout est parfait. Il n'y a pas de rejet, en principe.
Comment la Bible irrigue-t-elle votre imaginaire? Elle est comme une sorte de fleuve souterrain dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos textes.
Bien sûr. Il y a un garçon qui a fait le... le compte de toutes les références bibliques dans Paradis. Alors, il y en a, je ne sais pas, 2500. Bon. Ça m'habite. Voilà. Parce que tout simplement.
C'est la littéralité du texte qui vous habite.
C'est le rythme. Bereshit, Bara, Elohim, etc. Bon, il faut faire, faut faire du rythme. Il faut. Écoute, Israël, c'est ça le fond de la musique. Écoute, hein, écoute, Shema, l'écoute. Donc, on écoute ou on n'écoute pas. Hein. Bon, voilà. Puis ensuite, il y a des tas d'histoires absolument gigantes. Enfin, c'est pas du cinéma, ce sont des histoires internes. Pourquoi David, par exemple, qui est le prénom de mon fils.
Comme par hasard.
Bah oui, voilà, ça s'est posé comme ça. Est-ce que je le fais baptiser catholique ou pas? De quel droit interrompre? Il faut penser quelque chose. On transmet pas. J'ai transmis.
Parce que vous n'étiez pas encore devenu catholique au moment de la naissance.
Mais j'étais
de votre
toujours
fils.
Été catholique, cher ami. On ne devient pas catholique, sauf si on se convertit. Mais moi, je suis d'origine, de souche.
Oui, mais vous êtes un catholique fervent. Et ça, c'est assez récent.
Bah oui, je trouve. Encore une fois, je vous dis. Le catholicisme est revenu tout naturellement. Parce que je vivais en Italie, qu'en Italie, il est impossible de ne pas comprendre qu'il y a quelque chose de tout à fait ahurissant dans cette affaire. Selon que vous êtes à Florence, à Rome, à Venise, à Naples. Bon,
Mais l'appartenance à une culture passe-t-elle par la religion ? L'appartenance à une religion.
Si vous ne savez pas de quelle religion il s'agit qui a produit ça,
c'est culturel. Mais c'est pas culturel.
C'est pas culturel. C'est que toutes ces choses ont été évidemment produites avec une foi considérable que vous entendez ou que vous n'entendez pas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une annonciation, qu'une assomption, etc.
Donc c'est par le biais de l'amour de la peinture que vous avez commencé à comprendre que né catholique, vous l'étiez aussi.
Ben, je le suis.
Religieusement parlant.
C'est-à-dire que la religion a mauvaise. Je ne suis absolument pas religieux. Je ne m'intéresse pas au lien entre. Je ne fais pas de prêche, de sermon, etc. Mais en revanche.
Vous allez voir le pape quand même.
C'est la moindre des choses. En général.
Tous les catholiques voulaient se faire embrasser par le pape.
On n'est pas allé jusque-là, mais enfin, il y a une main très, très.
Il y a des photos qui attestent d'une rencontre.
Il y a une rencontre, on a oublié de quoi il s'agissait. Je lui remets une.
Il s'agissait de Jean-Paul II.
Jean-Paul II.
Parce que vous avez vos papes aussi, ceux que vous aimez et ceux que vous aimez moins.
Jean-Paul II, le 13 mai 1981, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République française. On a gagné. Bon, le même jour, le pape polonais, Jean-Paul II, reçoit 2 balles dans le ventre. Il a été à 2 doigts de se faire sacrément buter. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a un livre de moi qui s'appelle Le Secret, qui est archivé à Rome.
Dans la bibliothèque pontificale?
Oui, absolument. Vous avez un dictionnaire historique de la papauté.
Vous n'en êtes pas peu fier. Hein.
Ben, je trouve que c'est pas mal, oui, d'une certaine façon. Bref, tout le monde a oublié que je remets au pape un livre sur la Divine Comédie de Dante. À qui voulez-vous que j'offre un livre sur la Divine Comédie de Dante? Bon, il y a mon amie Jacqueline Risset qui a traduit la Divine Comédie, parce que je m'intéressais à Dante et elle aussi. Et donc, on a beaucoup travaillé à Dante. Est-ce que Dante est connu en France? Ben, écoutez, non, pas plus que le catholicisme romain.
Alors, Jean-Paul II, la rencontre, pourquoi avoir voulu absolument rencontrer le pape?
Parce que ça suivait ce roman.
Parce que beaucoup se sont moqués de vous, hein.
Les ploucs se sont moqués de moi, les ignorants. Peu importe. C'est pas le problème. Je publie ce livre, Le Secret, il y a 20 ans, où il est beaucoup question de la mafia, d'ailleurs, et Jean-Paul II est le seul qui, dans un discours célèbre, agrégeant, a parlé contre la mafia, qui a beaucoup infecté les alentours de la banque, de les Banco Ambrosiano, comme vous savez. C'est très, très intéressant, cette histoire. Le type pendu sous un pont, Calvi, à Londres, le Monseigneur Marcinkus, qui doit respirer encore dans un fond de couloir, tout ça est éminemment romanesque. Donc, je publie un livre sur la Divine Comédie. Dante est absolument un personnage essentiel de mon existence. Je me le récite, hein, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Vous comprenez? Voilà. Et l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Hein? L'amour qui meut, c'était. Bon.
Il y a un concept que vous empruntez à Dante, ou que vous avez peut-être inventé à partir de votre lecture infinie de Dante, c'est celui de transhumanar.
Transhumanar, c'est lui qui a inventé le verbe transhumaner, passer à travers l'humain. Hein, passer à travers.
Comment vous l'entendez?
Bah, je l'entends au sens de la traversée de l'être mammifère. Donc, pour aller vers quelque chose de plus...
Sortir de soi ?
Oh, de soi, ça suffit même pas. Il faut sortir de la condition humain, trop humain, dit Nietzsche, n'est-ce pas ? Humain, trop humain, voilà. Donc, transhumanar, c'est aller... Ben, ça, c'est le problème de Dante. Il veut aller au paradis, il veut aller dans l'amour.
Ben, vous aussi, hein ?
Bien sûr, oui, il n'y a aucun problème. Oh oui, je préfère. Il y a des gens qui me disent souvent « Ah, l'enfer, c'est plus intéressant que le paradis. » Ben alors qu'ils y aillent. Le paradis, oh, ça va. Le paradis, c'est ennuyeux. Oui, oui, c'est ça, oui. Le paradis, c'est ennuyeux. Ah bon ?
Il y a le purgatoire aussi.
Oui, il y a le purgatoire. Si on peut passer par le purgatoire. Dante a fait tout le parcours. Il nous renseigne là-dessus. Vous avez des supplices horribles. Il y a une chose qui est oubliée, c'est que le fin fond de l'enfer, c'est la glace, c'est le froid, c'est l'aphasie. C'est exactement comme les banques au Luxembourg, au Berne, etc. Vous voyez, c'est ça.
Voilà. Mais le paradis, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais si, sauf
pourquoi
à vous relire.
Mais comment on sait très bien ce que c'est si on le lit ? C'est des tourbillons, c'est le chant, c'est les graisses permanentes, c'est l'art... C'est l'art même. Dieu est un artiste considérable. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas en général, qu'on décide qu'il est mort. Mais bon, ça lui fait des chauds des froids. Donc, ce n'est pas ça. Cette haine de la... Je crois, dit Flaubert, à la haine inconsciente du style. Eh bien là, il touche un truc. Je crois, moi aussi, à la haine inconsciente de l'art. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe pour l'art contemporain, toutes ces déchets, toutes ces merdes. Vous allez chez Pinault à Venise et vous voyez comment orchestrer des déchets.
Non, il n'y a pas que des déchets.
Mais si, il n'y a que des déchets. Ce n'est pas grave.
Dans la Dogane.
Oui, oui.
Et au Palazzo Grazzi.
Oui, oui.
Il n'y a pas que des déchets, il y a les artistes.
Il vaut mieux aller dans une église pour regarder.
Ça, c'est le côté réac de Solaire. Ça m'étonne toujours.
Oui, c'est ça. Oui.
Il n'y a pas que des merdes dans l'art contemporain, vous le savez bien d'ailleurs. Là, vous faites jouer le provocateur.
Oui, c'est ça. Je voudrais que les artistes me
parlent. Revenons-en au pape.
Oui, oui, oui. Eh bien, personne n'a remarqué que dans cette photo qui a fait scandale, j'offrais un livre au pape qui était soigneusement...
Vous étiez agenouillé quand même.
Mais écoutez, c'est pas mon... Je suis pas contre le protocole. Je ne pense pas que ce soit décent d'aller taper sur l'épaule de la reine d'Angleterre. Alors, ma vieille, ça va. Je suis contre le fait, quand c'est un pape, oui, agenouillé, oui, enfin, oui, bien sûr. Je lui offre quelque chose qu'il prend. J'ai reçu, d'ailleurs, par la suite, des lettres, mais extrêmement touchantes, profondes, pour discuter mon point de vue sur Dante. Vous savez... Réac ou pas, ça veut rien dire. Il faut.
Mais vous croyez à la résurrection ?
Mais je ne sais pas si vous concevez. Pour vous répondre, il faudrait que je sache ce que vous concevez par là, ou si ça vous paraît une fadaise absolument impossible.
Mais non. Autrement dit, c'est la façon. Une fadaise. J'essaye de savoir comment vous, qui êtes si cultivé, à la fois dans le domaine de l'art, de la littérature, de la poésie, de la philosophie.
Oui, mais c'est ça qui est être révolutionnaire aujourd'hui. Oui, oui, c'est être révolutionnaire et le contraire donc de réac, de s'occuper de tout ça. Voilà, je suis profondément convaincu. Donc je suis tout à fait révolutionnaire en m'intéressant aux choses fondamentales que j'essaye de transmettre. Premièrement, quant à croire à la résurrection, il faudrait quand même... savoir ce que vous pensez de la mort, et c'est là que le débat vient à son comble. Bon, alors, moi je peux vous réciter le « Je vous salue Marie », hein, par exemple, ou par exemple, noter un nouveau concept qui m'est venu au moment de l'Immaculée Conception, c'était le 8 décembre dernier, n'est-ce pas, c'est la PSA. contrairement à la PMA, la procréation médicalement assistée, oui, dont il est beaucoup question, là, vous avez un cas, une fois pour tout, d'ailleurs, de procréation spirituellement assistée. C'est le cas de la Vierge Marie. Le PSA me paraît très préférable à l'industrie du PMA. C'est rare et ça n'intervient qu'une fois pour toutes, d'une certaine façon. Bon, passons. Mais
Alors,
si vous êtes, vous récitez ça, priez pour nous, etc. Pauvres pécheurs. Pécheurs, il faudrait s'entendre sur une nouvelle définition du péché, qui a toujours été pris de façon sexuelle, ce qui est une très grosse erreur de l'Église en général. Le péché, c'est le calcul, c'est pas le sexe. C'est le calcul, c'est le fait de calculer. Donc ne pas être gratuit. Pauvre calculateur, nous sommes. Pauvre mesquin calculateur du matin au soir, maintenant et à l'heure de notre mort, ce qui veut dire très exactement que l'heure de votre mort et la mienne, c'est maintenant. C'est tout de suite. Donc la résurrection, c'est pas dans l'au-delà, c'est tout de suite. C'est pas dans l'au-delà, après la mort, le débris de votre corps qui va surgir au cimetière pour flotter dans l'air. Non, c'est tout de suite. Il y a une conception du temps. Et encore une fois, c'est là où c'est très très beau, où ça produit des tonnes de merveilles. Voilà, ça m'enchante. Je suis révolutionnaire parce que je m'enchante de ce qu'a produit le génie humain.
Le génie du christianisme.
Oui, ça c'est le titre de Chateaubriand, dans une époque forte bizarre, n'est-ce pas? Tout le monde a hurlé. Chateaubriand n'est pas très, très, très précis. Il voulait rétablir... Enfin, écoutez, la France a été un pays de déchristianisation massive, on l'a vu avec la Révolution, l'Empire, etc. Bon, il serait temps de réévaluer un peu tout ça, de visiter l'histoire. Voilà, c'est tout.